Amis auditeurs, auditrices de la web radio à Revinfo, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Si on en parlait de ce vendredi. Alors, au Togo, nous sommes tous conscients, nous sommes confrontés au problème de gestion de déchets plastiques depuis des lustres. Les efforts ont et continuent d'être fournis sur cette problématique. Nous dénotons des initiatives dans ce sens pour réduire au maximum ces déchets pour un environnement plus propre et plus sain. Ce soir, nous allons donc à la découverte d'une start-up et pas seulement ça, mais aussi de l'initiateur du projet intitulé Robaloto. Il faut le rappeler, qui est donc le collecteur de sachets usés en EV. Voilà, langue vernaculaire parlée chez nous au Togo, plus précisément dans le sud. Et qui, selon les informations, et j'espère bien sûr qu'on aura confirmation, est une solution technologique innovante. Lancé en 2018, le projet consiste à équiper les écoles togolaises de poubelles connectées pour faciliter donc le recyclage des déchets plastiques. Muni d'un système de QR code sophistiqué, cette poubelle intelligente permet donc d'avoir ou permet l'envoi de données et d'alertes essentielles pour optimiser la collecte de déchets, adapter les itinéraires grâce à la géolocalisation et prévenir tout débordement indésirable. Je ne vais pas mordre ou carrément sauter les pas. Nous allons avoir plus de détails dans quelques instants avec notre invité du jour. Il se nomme Monsieur Ayman Badamassi. Vous écoutez la voix de Miss Darlix.
Oh my God, well, well, merci, everything is blessing.
Tana bena, keke li me misole. Bibi chi ma te do no sere mi adio. Tana bena, keke li me misole. Bibi chi ma te do no sere mi adio.
Jelawo de ka di dudu ye ni mi ato mi ko na nko gbede na fo fofo na waya lucia de mawe nana I cannot lose o gami ala su ki vivra vera hey fofo tonawo tous pareil mais pas les mêmes on m'a dit va là où on t'aime ça t'évitera bien des problèmes je chante et tu rappes je kick et tu vibe ils parlent on écoute pas where the where the elle qui
Ropata de Fofo Scarfo et Kiko pour vous dire bienvenue dans cette nouvelle édition de Si on en parlait, bien sûr, sur la web radio à Revinfo. J'ai fait déjà le résumé qu'il faut, mais on aura plus d'informations sur le concept Robaloto avec notre invité du soir, Monsieur Ayman Badamassi. Alors, cher invité, bonsoir à vous.
Bonsoir Miss Darlix.
Comment est-ce que vous vous portez ?
Si vous allez bien, je vais bien.
Super. Alors, la première question ne va pas tarder. présentez-vous à nos chers internautes, auditeurs, auditrices.
Alors, je suis Ayman Gbadamassi, entrepreneur social, activiste climat. Je suis le CEO de la start-up Robaloto Afrique. J'ai un background en comptabilité, contrôle audit et je suis passionné de solutions innovantes pour les communautés.
Alors, nous allons commencer avec la start-up. Parlez-nous-en.
Alors, Robaloto veut dire déjà le ramasseur de plastique en langue mina. Et c'est une plateforme qui permet aux écoles de justement gérer leurs déchets plastiques. Chez nous en Afrique, les écoles produisent beaucoup de déchets. On n'a pas idée. Au Togo, c'est 900 tonnes de déchets qui sont brûlés chaque jour. Et pour nous, c'est une problématique parce que les écoles, très souvent, n'ont pas cette possibilité-là de bien les gérer. Ce qu'elles font, c'est soit de les incinérer, soit de les confier à des structures de pré-collecte qui, elles autres également, s'en vont les déverser dans la nature. Donc pour nous, ce n'était pas vraiment des solutions. Il fallait qu'on mette en place un système qui leur permettait, c'est-à-dire aux écoles, de mieux gérer leurs déchets. Donc concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous installons dans les établissements des poubelles intelligentes. Donc, ce sont des poubelles qui sont dotées et de capteurs ou d'applications qui nous permettent non seulement de collecter les déchets de façon plus efficace, mais également de collecter les données. Notre solution nous permet de savoir, par exemple, dans un établissement, quelle est la fréquence de remplissage de la poubelle. Ça nous permet d'éviter le débordement ou simplement de mieux planifier les tours de collecte. Par exemple, notre solution nous permet de savoir quel est le type de déchets qui est le plus utilisé. Si ce sont les bouteilles plastiques, nous pouvons demander aux élèves de venir à l'école avec des gourdes écologiques, par exemple. Et le fait aussi de savoir quelle est la quantité de déchets qui est produite chaque mois nous permet de savoir quelle est l'empreinte carbone qu'on arrive à réduire sur l'environnement. Donc, c'est à peu près ça. Parallèlement, les déchets que nous collectons, nous les transformons en des sacs que nous appelons des robes à nous, qui veut dire les produits dérivés du plastique. Ce sont des sacs produits à base de déchets, comme j'ai dit, mais qui intègrent un film photovoltaïque pour justement permettre aux enfants dans les villages sans électricité d'étudier. Donc, ce sont des sacs qu'on peut charger au soleil pendant la nuit. Ces élèves-là peuvent utiliser maintenant la batterie intégrée pour apprendre après. Donc, voilà. Donc, c'est un peu Robaloto. En amont, nous installons aussi dans les écoles des clubs environnement pour justement pallier l'absence des cours d'éducation environnementale dans les basses classes.
Intéressant. Mais moi, je suis un peu intriguée. Pourquoi Robaloto ?
Pourquoi ?
Je ne sais pas, mais j'ai envie de poser la question.
Ok, Robaloto, déjà parce que ça promeut la langue nationale de chez nous. Moi, la semaine dernière, je suis au Maroc, et quand les gens me demandent Robaloto, ça veut dire quoi ? Quand je leur dis, ça veut dire le ramasseur de plastique en langue mina au Togo, c'est une façon aussi de promouvoir nos langues nationales. Si aujourd'hui Elon Musk veut sortir une solution, il ne va pas venir chercher une langue de chez nous, donc il va prendre une langue de chez eux. Donc pourquoi pas nous Africains, pourquoi pas ne pas sortir des solutions dans nos langues locales, d'autant plus que ce sont des solutions qui répondent mieux à nos réalités. Mais en même temps, c'est aussi une façon de démystifier cette image que nous avons de ces personnes-là qui ramassent les déchets. Moi, quand on me demande qu'est-ce que je fais comme travail, je dis que je suis ramasseur de déchets. Voilà, c'est généralement, on pense que ce sont des sous-hommes, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est une façon de dire que c'est un métier très honorable que tout le monde peut faire. Quoi. Tout le monde peut être un Robaloto.
Dans votre description tout à l'heure de votre personne, vous avez parlé du fait d'avoir un background en comptabilité. Comptabilité, déchets, contrôle audit, déchets, environnement. Je crois que c'est le sens opposé. Hein.
Tout à fait.
Quel a été le déclic ? Pourquoi ce choix-là ?
Alors déjà, je dirais que ma passion, c'est le cinéma. Donc, je suis en comptabilité, mais parallèlement, je suis réalisateur. Enfin, je suis réalisateur.
D'accord.
Et un jour, j'ai un ami qui m'a invité à une conférence sur les changements climatiques. Et j'ai vu un peu le défi. Et je me suis dit, j'ai été intrigué. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et tout est parti de là. Et après, on en est là.
D'accord. Alors, de 2018, si je me souviens bien, vous avez commencé les démarches depuis, mais c'est en 2018 que vous avez vraiment démarré. Et aujourd'hui, on est en 2024. Parlez-nous un peu de ce parcours-là.
Alors, déjà, je dirais que les débuts ont été très compliqués. Même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Hein, mm-hmm. Mais ça a été beaucoup plus compliqué de démarrer.
Oui.
Parce qu'à l'époque, il fallait, d'autant plus que nous travaillons dans les écoles, surtout publiques, il fallait avoir okay. des autorisations. Mm-hmm. Et ce n'était pas donné. Moi, je me rappelle, le premier jour où j'ai pris contact avec un établissement, je m'y suis rendu. Et je leur ai parlé de ce que je voulais faire. On voulait faire un don et tout.
Oui.
Et on me dit que il me fallait une autorisation. Je dis, même pour faire un don. On me dit oui, pour faire un don, il me faut une autorisation.
Mm-hmm.
Et ça nous a pris 3 ans, carrément, pour avoir l'autorisation. À chaque
trois
fois,
ans.
Oui, 3 ans. 3 ans. À chaque fois j'y allais, on me disait non, mais bon, moi je suis le genre de personne, quand tu me dis non, le mieux est de me dire oui en même temps, parce que je vais pas m'arrêter en fait. Du coup, à chaque fois on y retournait, on améliorait, finalement un jour on nous a appelé, on nous a dit qu'on avait un courrier,
mm-hmm.
et on nous a donné l'autorisation. Après, l'autre défi, c'était le problème de moyens financiers, parce mm-hmm. qu'il fallait bien évidemment lancer le projet, parce
oui.
qu'on ne s'y attendait même plus
mm-hmm.
pour avoir cette autorisation là mais bon, après, l'argent c'est qu'un... C'est pas vraiment le grand problème en fait. Quand il y a la détermination, je pense qu'on trouve toujours ce qu'il faut pour avancer. Donc je dirais que ça, c'était les problèmes de début. Mais pour parler surtout du parcours, on a beaucoup évolué.
Mm-hmm.
On ne s'y attend. Quand je vois un peu comment on a commencé, où on en est aujourd'hui, je dirais que c'est un travail de géant, surtout à cette équipe-là qui m'accompagne. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire. Quand on veut aller loin, ça dépend des personnes qu'on a autour de nous. Donc, mm-hmm. plus tu as des personnes plus engagées, plus compétentes, plus tu vas beaucoup plus loin, en fait. Donc,
mm-hmm.
voilà. Donc, chaque personne avec son rôle et voilà. Maintenant, le projet, il a évolué.
Mm-hmm.
Quand on a commencé, on n'a pas commencé avec les idées qu'on avait aujourd'hui.
Mm-hmm.
C'était uniquement sensibiliser qui était notre objectif au départ.
Mm-hmm.
Mais chaque année, on se disait, mais il fallait qu'on fasse quelque chose de mieux, qu'on innove. Donc, c'est ça qui nous a amené de juste l'étape de sensibilisation. Et aujourd'hui, Robalot, qui est une start-up avec un modèle économique bien, bien établi.
Alors, si je veux peut-être ramener des amis pour faire un tour peut-être dans votre start-up, je dois me rendre où? Je dois prendre des informations où?
Alors déjà, il faudrait peut-être nous envoyer un mail.
D'accord.
Nous sommes à Toko Hôpital,
okay.
Dans l'avant, en face de l'ENAM. Mais ce serait bien de nous envoyer un petit mail pour nous prévenir à l'avance.
Mm-hmm.
En termes de contact, vous pouvez nous appeler sur le 91-58-24-04. Mm-hmm.
D'accord, alors ce n'est que partie remise, ce qui est sûr, on aura à faire des visites si vous êtes à l'écoute, bien sûr. Essayez aussi de vous intéresser à cette start-up, à ce projet-là, Robalotto. Alors, cher invité, parlez-nous un peu du fonctionnement de votre structure. Vous avez parlé tout à l'heure des gens qui vous accompagnent. Est-ce qu'ils ont eu une formation en environnement, je ne sais pas trop, mais ou soit ils sont dans le même cadre que vous, le background, pour changer de voie après, ou comment ça se passe?
Je dirais qu'on a beaucoup plus de personnes qui ont eu un background différent.
Mm-hmm.
Moi, l'environnement, c'était pas vraiment au début, c'était pas ma passion.
C'est ça.
Moi, je voulais finir cinéaste et tout. Donc après, ça a changé. Et je pense que c'est un peu le cas également de mon équipe.
Mm-hmm.
Mais je pense que le point commun qu'on a tous, c'est cette passion-là pour l'amour de l'environnement. Ce qu'on veut, on a compris qu'il y a un grand creux. Il faudrait qu'on fasse quelque chose, en fait. Donc voilà. Donc ce sont toutes des personnes que je rencontre, soit... Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne travaille pas avec des amis, en fait. Vous voyez,
mmh.
Ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans des situations et après, on est devenus amis.
D'accord.
Vous comprenez?
Mmh.
Donc, voilà, mon développeur, par exemple, je l'ai connu sur un événement écologique. Et quand j'ai appris qu'il était développeur, bon, après, il a rejoint l'équipe. Donc, voilà. Pareil pour celui qui produit les poubelles, celui qui s'occupe des sacs. Il y a aussi des personnes qui nous contactent, soit sur les réseaux sociaux,
mm-hmm.
soit qui nous découvrent et nous envoient des mails pour nous proposer leurs compétences.
Mm-hmm.
Et ce sont également des personnes que nous accueillons à un bras ouvert.
Mm-hmm.
Donc, voilà.
Parlons des gens qui vous contactent pour apporter leurs compétences. Est-ce que depuis ces 6 ans-là, il vous est arrivé de faire des formations à l'endroit de ces jeunes-là, surtout pendant les vacances, pour les occuper et plus savoir sur le projet?
J'ai pas bien compris la question, vous pouvez répéter?
Oui, vous avez parlé tout à l'heure des gens qui vous contactent pour proposer leurs compétences. Et je demandais si, depuis ces 6 ans, vous organisez des formations pour sensibiliser, pour que ces jeunes-là puissent apprendre comment confectionner peut-être un sac à base de sachets.
Ok, concernant l'équipe, c'est d'autres formats de formation que nous faisons. Mm-hmm. Maintenant, concernant le grand public, nous oui. organisons des ateliers mm-hmm. et bien évidemment, nous sommes toujours ouverts à des invitations. Récemment, nous étions sur l'invitation de l'AEFEC, mm-hmm. qui est une organisation très bien connue, pour justement venir montrer comment ces sacs-là sont fabriqués. Et on était présents. Ça a permis de montrer à beaucoup de jeunes comment est-ce que nous faisons. Mais nous, avec l'équipe, on a d'autres format de formation. Pareil, nous faisons même des réunions à 2h du matin pour parler. Ouais, c'est quand je dis que nous, on peut passer 24 heures au bureau, par exemple, c'est-à-dire 24 heures vraiment au sens propre. Tu viens à 8 heures, tu quittes à 8 heures. Tu vois.
Carrément.
Carrément. Donc, on est toujours en formation en mode every time, en fait. Voilà,
toujours.
Apprentissage toujours. Donc, c'est à peu près ça.
D'accord. On vous laisse respirer un coup. Donc, notre première pause musicale et on revient maintenant s'intéresser à ces écoles-là qui ont pu intégrer ce projet.
Merci.
Retour en studio, nous sommes en compagnie de notre invité du jour du soir, Monsieur Ayman Gbadamassi, initiateur donc du projet Robaloto. Alors Robaloto dans les écoles, bien sûr, comment les élèves, les directeurs ont-ils donc accueilli cette initiative, cher invité?
Ok, déjà, ça a été une initiative qui est très bien accueillie et qui continue d'être bien accueillie par les écoles, d'autant plus que la problématique elle est réelle et constatée à tous les niveaux, tant nous à notre niveau qu'au niveau du gouvernement. Je fais un petit clin d'œil pour remercier le ministère des enseignements primaires et secondaires qui récemment nous a donné l'autorisation de pouvoir équiper toutes les écoles publiques du Togo. Je pense que c'est une très belle avancée. Et une problématique aussi constatée au niveau des écoles elles-mêmes, parce qu'elles sont au centre de la chose. Et quand on parle de Robaloto, elles voient un peu une lueur d'espoir, en fait. Mm-hmm. Donc voilà. Donc ce sont également je veux parler du corps enseignant, ce sont également des personnes qui... nous permettent, parce que sans elles, on ne pourrait pas vraiment avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Mmh. Donc l'accompagnement, il est perpétuel. Et en même temps, c'est aussi une initiative qui leur permet de gagner de l'argent. Parce que justement, à la base, les déchets sont soit confiés à des structures de pré-collecte, et il faut payer pour ces structures-là, soit brûlés. Même si c'est de l'essence, il faut les payer. Alors qu'avec nous, les déchets, quand nous les collectons, nous les transformons en des sacs qui sont vendus, une partie de l'argent est reversée aux écoles.
Ok.
Donc voilà. Donc même si ce sont des déchets que nous n'arrivons pas directement à transformer comme les sachets noirs, par exemple, nous les vendons à des structures qui les achètent et une partie de cet argent est toujours reversée aux écoles.
D'accord, donc les sacs sont plus faits avec les sachets de Pioata.
Exactement. Donc les autres types de déchets sur lesquels nous n'avons pas un réel pouvoir de transformation, nous les vendons directement à des structures qui sont dans le recyclage, qui transforment ces déchets-là. Et comme j'ai dit, une partie de l'argent est reversée. Bon, reversée aux écoles pour financer les activités des clubs que nous installons.
D'accord, super. Alors, on peut parler un peu des résultats jusqu'ici.
En termes de résultats, nous en sommes à plus de 20 écoles déjà.
20 écoles ?
Plus d'un million de personnes touchées. Plus de 100 tonnes de déchets plastiques collectés. Nous sommes au Togo et en Guinée-Conakry. Nous avons récemment eu l'agrément du ministère, comme j'ai dit, de pouvoir équiper. Je le considère comme une retombée positive. Nous avons gagné plusieurs prix. Nous avons installé 22 clubs environnement. Voilà, je vais pas...
Oui, mais je suis intéressée par... Bon, je suis sûre que les auditeurs aussi le sont, par les prix.
Okay.
Vous pouvez en nommer quelques-uns.
Nous avons gagné le premier prix de la GIZ qui constituait le premier prix de start-up de la GIZ lancé l'année passée. Nous étions troisième sur le Togo Digital Award dans la catégorie meilleure innovation digitale. Et récemment, nous faisions partie des 10 startups sélectionnées pour participer au JITES au Maroc.
Félicitations.
Merci.
Alors, comment se fait le suivi par après ?
Alors, nous avons des KPI, des indicateurs qui nous permettent de suivre. Avant de venir dans une école, on a une idée sur ces KPI-là nous permettent, après une période, de savoir en fait quelles sont les avancées que nous avons eues, tant au niveau environnemental qu'au niveau social également. Donc voilà.
Alors, je vais peut-être sauter le pas, mais dans l'avenir, est-ce que vous pensez juste vous étendre, je ne sais pas trop, peut-être dans les clubs sportifs, peut-être, je ne sais pas, dans les restaurants? Est-ce que vous avez cette idée-là?
Bien évidemment, vous savez, moi, oui. je dis que nous sommes dans les écoles, mais quand on réfléchit bien, il n'y a pas plus de déchets dans les écoles que dans les marchés,
justement,
par exemple, ou
oui.
dans les entreprises. Mais nous sommes d'abord dans les écoles parce qu'on se dit qu'il faudrait commencer à la base. Vous voyez, aujourd'hui, moi, ça fait au moins depuis 20 ans, je n'ai jamais jeté un truc par terre. Jamais.
Wow.
Ouais. Parce que je suis éduqué de la sorte.
Oui.
Vous voyez, et je me dis que si... le programme les cours d'éducation environnementale sont intégrés dans le programme scolaire, ça permettrait dans 10 ans d'avoir une génération de jeunes beaucoup plus éco-engagés. Donc c'est la raison pour laquelle nous commençons dans les écoles. Mais également, les élèves sont les plus créateurs de l'effet papillon. Quand ils apprennent un truc, ils en parlent toujours aux parents. Aujourd'hui, on nous a dit à l'école de ne pas faire ci. Donc, même si les parents, nous, en tant que parents, on n'écoute pas toujours, mais ça agit psychologiquement sur nous. Et indirectement, ça voudrait dire qu'indirectement, un enfant sensibilisé, c'est toute une communauté qui est directement touchée. Raison pour laquelle nous sommes dans les écoles. Mais nous avons pour ambition de nous étendre au niveau des marchés, au niveau des communes, des entreprises, des ménages. Nous avons déjà des propositions que nous sommes en train de traiter et voilà.
D'accord. Nous revenons donc à la confection de ces sacs-là, robe à nous. Est-ce que ces confections-là se font pendant les ateliers de club, dans les écoles ou carrément chez vous à Tocoin?
C'est pas dans les écoles. Pour le moment, nous essayons de trouver nous essayons de calibrer nos programmes avec ceux des écoles pour pouvoir vraiment intégrer je pense que ça va commencer à partir de l'année prochaine.
D'accord.
Nous avons également un atelier que nous allons lancer dans les périodes de vacances qui va permettre de former tous les jeunes qui ont envie d'apprendre la confection de ces sacs-là. Parce que c'est aussi ça l'objectif de Robe à l'Auto, créer de l'emploi. Et si les personnes ont des notions, sortir pas mal de choses. Nous, on est peut-être assez limité, mais on n'a pas confiance des idées ou des visions des jeunes, que nous avons. Donc voilà. Mais du coup, pour le moment, les confections se font chez nous.
Donc vous êtes les seuls à confectionner ces sacs-là?
Les seuls, non.
C'est-à-dire la start-up avec, bien sûr, votre équipe?
Oui, bien sûr. Maintenant, il y a des sacs. On n'est pas les pionniers en termes de sacs produits à base de sachets d'eau que nous appelons sachets de Puyata. Il y a plein de personnes qui le font. Mais des sacs qui intègrent également un film photovoltaïque. Pour le moment, nous sommes les seuls. Et nous espérons qu'il y aura d'autres personnes, parce que nous sommes dans l'optique qu'il y ait plus de personnes qui multiplient le projet. Moi, quand je vois Robe à l'Auto et que je vois une personne faire un peu similaire, je suis content, parce que c'est justement la vision qui est Robe à l'Auto partout, parce que c'est une question de tout le monde, en fait.
Alors, nous revenons un peu en arrière. Dans mon introduction, j'ai eu à parler des poubelles connectées. On aimerait bien savoir ce qu'il en est.
Alors, ce sont nos poubelles connectées, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, nos poubelles sont des poubelles qui sont dotées soit d'applications, soit de capteurs. Et cette technologie nous permet surtout d'abord de collecter les données. L'application, aujourd'hui, nous avons une application web et une application mobile. Donc, l'application permet justement aux élèves ou aux enseignants, d'autant plus que les élèves ne sont pas autorisés à utiliser les téléphones portables dans l'enceinte de l'établissement. Donc, ça permet aux enseignants ou bien la personne qui est chargée de faire ça de nous partager les données et aussi aux équipes de collecte de partager les données. Donc, ce sont ces données-là qui, une fois analysées par l'IA, nous permettent d'apporter des solutions particulières à chaque école. Parce que pour nous, le problème, il est général, mais les solutions peuvent être particulières. Quand nous prenons, par exemple, le lycée de Tocoin et nous prenons, par exemple, le lycée Cours-Lumière, ce n'est pas le même problème de gestion de déchets.
Pas du tout.
Donc, c'est en fonction des données que nous analysons, que nous essayons de savoir que dans telle école, il faut ça pour justement régler le problème une fois pour de bon.
D'accord. Parlons des sacs rechargeables. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent déjà dans le Grand Lomé ou c'est juste dans les coins vraiment reculés?
Pour le moment, il n'y en a pas qui l'utilisent dans le Grand Lomé. Nous avons des organisations qui nous achètent ces sacs, qui en font ce qu'ils veulent. Mais je pense que la cible, c'est beaucoup plus à l'intérieur du pays. Parce que nous, on a ici la lumière, même s'il y a la fracture énergétique aujourd'hui, on a quand même de temps en temps la lumière. Mais il y a des élèves qui n'ont pas du tout de la lumière du matin jusqu'au soir. Et c'est un peu une injustice. Du coup, quand nous voudrions diriger des actions, c'est beaucoup plus vers ces enfants-là qui ont une fracture énergétique beaucoup plus intéressante.
D'accord. Alors, Monsieur Ayman, c'est intéressant ce projet. Nous continuons donc pour parler maintenant de partenaires, hein, si vous voulez bien sûr en parler. Est-ce que vous avez de ces personnes-là qui vous soutiennent, je ne sais pas, financièrement, pardon, ou n'importe quelle aide?
On a plein de partenaires. Mm-hmm. Quand je dis ça, les gens pensent qu'on a des gens qui nous donnent de l'argent.
De l'argent, justement.
Pas forcément, mais mm-hmm. le ministère est déjà un partenaire. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le mini. On peut, dans une école publique, pas faire de projet sans que le ministère des enseignements primaires donne son aval, sans que la direction régionale donne son aval, sans que les inspections donnent leur aval. C'est vraiment un processus et voilà, sont les premiers partenaires. Nous avons aussi des organisations qui nous soutiennent. Je veux remercier au passage M. Simplice Gaou. Mm-hmm. Nous avons le ministère des droits de l'homme, notamment la direction de la formation civique mm-hmm. qui nous appuie. De façon technique, je fais une petite parenthèse pour féliciter encore le ministère des Droits de l'Homme pour le récent manuel d'éducation à la citoyenneté qu'ils ont lancé et ils nous ont donné l'honneur de pouvoir contribuer à l'élaboration de ce document-là. Et c'est vraiment une fierté pour nous parce que ça a toujours été un combat que les cours d'éducation environnementale soient intégrés dans le programme scolaire. Donc je pense que c'est une bataille de gagner. Et voilà. Sinon, on a plein de personnes qui, que ce soit de façon technique, financière, nous apportent leur soutien. Même vous êtes déjà un partenaire.
Vraiment obligé. Hein. Alors, comment est-ce que votre projet encourage-t-il l'engagement communautaire et la sensibilisation sur cette problématique de déchets plastiques?
L'engagement communautaire, je pense peut-être l'avoir effleuré un tout petit peu, puisque nous créons des clubs environnement. Mmh. Donc à la base, les écoles n'ont pas de club. C'est ça la condition sine qua non, en fait. Quand il n'y a pas de club, il n'y a pas de robaloto dans l'établissement. Parce que c'est souvent avec les élèves que nous discutons. C'est avec eux. C'est vrai qu'il y a le corps enseignant qui nous accompagne, mais quand il faut faire une action, c'est avec les élèves. Quand il faut sensibiliser dans les salles de classe, ce sont les élèves qui s'en chargent eux-mêmes en fonction de leur programme pour sensibiliser leurs pairs. Du coup, c'est un peu le marteau de Thor, les clubs environnement là que nous installons. Donc, c'est déjà une forme d'engagement communautaire parce que ces élèves, après, quand ils sortent du cursus préscolaire, ils ont toujours ces gènes-là en matière de protection de l'environnement. Après, c'est plus facile, en fait, pour eux de garder ces bons comportements. Donc, voilà.
Never give up. Can you do your job? Yeah, now hot in the mawujiko. Never give up my shine all the time. I will not be near now, my Joe. Find me, Joe. Find me, Joe. Bam, 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 bam
Bamijo.
Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Ayman Guadamassi, initiateur du projet Robalotor. Alors, M. Ayman, parlez-nous un peu du processus de recueillement de ces sachets-là. Comment ça se passe?
Ok, donc déjà, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait un club environnement. Donc ça, c'est là-bas. Sans club, il n'y a pas de Robalotor dans une école. Puisque c'est avec le club que nous faisons toutes les actions. Donc voilà, en fonction de leurs heures de réunion, qui sont généralement des heures, qui ne sont pas des heures de cours en fait. Donc voilà. Maintenant, le poubelle que nous offrons, la seule consigne, c'est que les élèves doivent n'y mettre que les plastiques. Tous les types de plastique, que ce soit puata, que ce soit bouteille plastique, sachet plastique. Donc les élèves ne mettent que du plastique dans nos poubelles. Maintenant, si l'école ou l'établissement le permet, ce sont les élèves eux-mêmes qui font le tri des déchets. Donc ça dépend de si l'école nous le permet, de que ce soit ces enfants-là qui, puisque justement on veut leur montrer un peu le, c'est aussi un de nos objectifs, leur montrer un peu le process, comment c'est fait, comment ces déchets sont transformés, et ça passe aussi par le tri et le traitement. Donc voilà, donc quand les élèves font le tri, nous, nos équipes viennent enlever et directement ça part au centre. Si c'est directement pour être vendu, ça va à des structures. Sinon, si ce sont des sachets de puata, ça vient directement au niveau de notre siège à Robalotor.
D'accord. Alors, entre-temps, vous avez fait part de votre ambition, là, l'autre, de faire plus, de vous mettre en contact avec pratiquement toutes les mairies. Parlez-nous-en.
Alors, je pense que cette vision a déjà commencé, surtout dans le Golfe, où nous étions rentrés en contact avec la plupart des communes du Golfe. Je parlais du Golfe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certaines réunions ont tenu, d'autres n'ont pas encore tenu. Mais l'idée, c'est un peu de mettre, comme j'ai dit, la vision long terme, c'est qu'il y ait Robalotor partout. Que dans les écoles, mais aussi dans les ménages, pour pouvoir, parce qu'après tout, c'est pas le problème de gestion de déchets, c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est vrai que les enfants, avec les enfants, ça part plus vite, mais ce serait, moi j'étais récemment au Maroc, c'était très joli, pas un seul déchet par terre. Je pense qu'on peut faire vraiment exactement pareil ici. Mais il faut dire qu'il y a aussi une volonté politique. Je pense c'est un peu avec l'effet des casques. Aujourd'hui, tout le monde met des casques parce que l'État était derrière nous pour qu'on le fasse. Si, par exemple, aujourd'hui, le ministre de... Je sais pas. On dit, par exemple, qu'on ne rentre pas au Togo avec un sachet. Ça, on peut le faire. Donc, voilà. Donc, je pense que il y a le gouvernement qui doit aussi accompagner en matière de cette vision-là, qui est de voir un Togo plus propre. Et que notre pays, parce que moi j'en suis fier quand j'en parle à l'extérieur, que notre pays regagne sa notoriété d'antan, surtout Lomé, la plus belle capitale de l'Afrique de l'Ouest.
Lomé, la plus belle capitale de l'Afrique de l'Ouest. Bref, on espère bien que l'on va retrouver ce Lomé-là. Alors, chers invités, dites-nous, comment est-ce que vous, bon, peut-être que je me répète, mais comment est-ce que vous mesurez l'impact de ce projet social ? À la fois social et environnemental.
À la fois sur l'aspect environnemental, c'est avec les KPI. Dans une école, on arrive à voir quelle quantité de déchets, par exemple, on a enlevé. Donc ça nous permet de savoir, ce sont des déchets qui étaient destinés soit à être incinérés, soit à être déversé sur un dépotoir. Du coup, ça nous permet de justement savoir quelle est l'empreinte carbone qu'on arrive à réduire. Donc ça, c'est ça. Nous avons aussi les clubs environnement que nous créons. Donc il y a certaines notions que nous essayons d'inculquer à ces élèves-là. Aujourd'hui, nous aimerions que les élèves qui finissent le cursus puissent en savoir davantage sur tout ce qui est reboisement, tout ce qui est marché carbone, tout ce qui est green tech. Donc nous leur posons des questions à la fin de l'année qui nous permettent de savoir est-ce qu'ils ont d'évaluer un peu leurs connaissances dans ces secteurs-là après le passage de Robalotto. Donc voilà. Maintenant, au niveau social, comme j'ai dit, nous faisons des ateliers et voilà pour justement impliquer tout le monde dans la chose.
Mais là, actuellement, les enfants sont vraiment focus sur leur examen.
Oui.
Comment est-ce que vous avez mis pause au projet?
Justement, vous pouvez nous en parler? Un peu avant l'examen, nous essayons de mettre une pause pour justement leur laisser le soin de se concentrer sur les études et tout. Et nous reprenons à la rentrée scolaire. Maintenant, quand nous installons des clubs environnement, ce que nous essayons de demander aux écoles, c'est puisque c'est vrai que c'est nous qui venions avec l'initiative de clubs environnement, mais ce sont les écoles elles-mêmes qui gèrent. En termes de qui est-ce qu'il faut prendre.
Les surveillants dont vous parlez, c'est ça?
Bon, pas forcément. Ça peut être le directeur qui charge quelqu'un.
Okay.
En fait, l'idée, c'est de laisser le soin à l'école elle-même d'organiser ce club environnement-là en matière de qui est. Parce que le club a un bureau. Mmh. Oui, voilà, un président de club, un vice-président. Donc, c'est eux qui se chargent de gérer ça. Maintenant, ce que nous essayons de demander à notre niveau, c'est qui est, quand c'est par exemple un lycée, qui est, ou un collège, qui est beaucoup plus des enfants qui sont en sixième, c'est-à-dire
en sixième.
Voilà, parce que...
Fraîchement,
parce qu'ils sont là sur la durée. Mm-hmm. Quand vous prenez un élève de terminale, par exemple, qui est président de club, l'année prochaine ne sera plus là. Pas forcément, mais s'il n'est plus là, c'est un peu l'effet... Le club est un peu laissé, donc voilà. Donc ce sont beaucoup plus des élèves qui sont en début de cursus et nous essayons d'être en contact avec, même en vacances, nous avons des activités prévues avec eux. Donc voilà.
Alors, nous avons lu quelque part que par rapport au prix, on revient par rapport au prix.
Okay.
Le premier prix que vous aviez eu, vous aviez gagné, alors on vous a donné une période d'incubation Innovop. On peut en savoir?
Oui, alors le premier prix, c'était le premier prix au niveau de la GIZ. Et ce prix, en fait, constitue à ce qu'on soit incubé à Innovop pendant 7 mois.
Mm-hmm.
Donc, à l'issue de cette incubation, on a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de... L'application mobile, on ne l'avait pas avant, mais c'est grâce à Innovop qu'on l'a eu aujourd'hui. Donc, je profite de l'occasion pour remercier la GIZ, l'agence Togo Digital, Innovop également, tous ces acteurs-là, ces parties prenantes-là qui nous ont permis d'avoir une bonne période et d'incubation, de pré-incubation, de post-incubation. Donc, voilà.
Dessus. Je n'ai pas dit non. Je c'est béton.
Béton.
Tu as construit maison.
Oh,
Baragot t'a béni. Caillou devient béton.
Oh,
Baragot t'a béni.
Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Il a le way. Il faut juste follow. C'est pas non normal. C'est pas non normal.
Mouchoir est sifflé, mouchoir est sifflé.
C'est pas normal d'avoir plein de déchets dans nos égouts, déjà qu'on est inondé de partout pendant ces périodes-là. Monsieur Eman, quel est votre avis sur ce désagrément qui touche pratiquement la majorité du Togolais, des Togolais?
Alors, c'est vraiment désolant de voir une telle situation, surtout en 2024. Je ne pense pas que ça devrait être aujourd'hui un fléau sur lequel on devrait se concentrer, parce qu'il y a des priorités, mais ça devient une priorité. Il faudrait se pencher sur la question. Mais je dis juste que le simple fait de jeter un sachet par terre contribue aussi aux inondations, parce que quand vous jetez un sachet par terre, selon vous, ça part où? Soit ça rentre dans la terre, soit ça rentre dans les égouts, et directement dans la mer. Donc voilà, ou quand ça bouche les égouts, c'est justement l'une des causes des inondations. Quand ça va dans la mer, l'impact sur la pêche n'est pas épargné également. Donc voilà, donc je pense que on doit surtout se pencher sur cette question-là, peut-être cette éducation-là. Ça va régler beaucoup de choses. Donc voilà. Donc je profite pour vraiment encourager, donner beaucoup de courage aux communautés, et également interpeller l'Agence nationale de la protection civile, qui est justement cette institution-là qui s'occupe des inondations, en tout cas au Togo. Je pense que beaucoup d'efforts sont faits à leur niveau, et j'espère encore qu'ils feront encore beaucoup plus pour mettre les populations à l'abri, et voilà.
D'accord, alors Robaloto, quel est donc votre plan ou vos plans pour donc assurer sur la durée, la pérennité de ce projet-là? Du moins, si peut-être vous avez une autre occupation qui pourra booster ce projet-là jusqu'au bout.
Une autre occupation, j'ai
je
pas compris.
Je ne sais pas, la question est plus de savoir quels sont vos plans pour pérenniser votre projet, tout simple.
Ok, alors, les plans pour pérenniser le projet, c'est d'abord l'extension au niveau des écoles. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer Robafimé, qui est une marketplace. Robafimé, c'est-à-dire le marché du plastique.
Okay.
C'est une marketplace qui met en relation et les écoles d'un côté et les acteurs du recyclage d'un autre, pour justement permettre à ces acteurs-là de savoir où se situent les déchets, en fait. Du coup, c'est une solution qui peut être utilisée par n'importe quel acteur dans n'importe quel pays, justement. Donc voilà, nous sommes en train de vouloir aussi étendre nos réseaux de partenaires, justement, tant financiers que techniques, pour justement améliorer la plateforme, et financiers pour apporter encore de nouvelles solutions beaucoup plus intéressantes.
Revenons sur le projet dont vous parlez tout à l'heure. Vous avez énoncé le terme Robacimé. Mais déjà, vous vendez ce qu'il faut, du moins ce que vous trouvez, de ce que vous prenez chez les jeunes dans les écoles et tout. Mais pourquoi Robacimé?
En fait,
je ne comprends pas.
Voilà, c'est justement parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent et me disent « Aïman, on voit tes trucs sur les réseaux sociaux et tout. Est-ce que j'ai une quantité de déchets, j'ai envie de les vendre ?» est-ce que tu peux venir les chercher ? Alors qu'à la base, c'était pas d'aller vers les gens. Nous, nous sommes au niveau des écoles. Mm-hmm. Okay, du coup, nous, le Rob Assimé va justement régler ce problème-là où ceux qui, n'importe qui, que ce soit vous, que ce soit les acteurs, qui ont envie de vendre les déchets, qui ne sont pas forcément dans les écoles, puissent avoir l'opportunité là de pouvoir les vendre, en fait, vous voyez. Sur une plateforme, vous pouvez passer une commande, dire que voilà, j'ai telle quantité de déchets. Et un acteur qui a envie d'acheter les déchets, ça peut être Rob Alotto, ça peut être un autre acteur carrément qui a envie d'acheter de la matière première, qui sont les déchets plastiques, puis vous identifier, vous contacter, acheter les déchets chez vous, sans forcément même passer par nous, en fait.
J'allais même en revenir, est-ce que vous n'allez pas empiéter sur le marché de ceux-là qui vont au marché pour prendre donc ces déchets-là après la journée de travail des gens. Je ne sais pas si vous avez fait un tour au niveau de Agbadaronou.
Oui.
Parfois, il y a des gens qui ramassent des sachets et il y en a qui s'asseyent juste à côté. À chaque fois, on compte et tout, avec le gramme et tout, et puis on les paie. Vous n'allez pas empiéter sur eux, leur travail ?
Je pense que
ce sera en partenariat, vu que vous parlez d'acteurs, d'autres acteurs.
Exactement. Donc, je pense que non. Je pense que ce serait même une façon de mieux moderniser le secteur, parce qu'aujourd'hui, ces ramasseurs ambulants vont dans les maisons, vont sur les dépotoirs. Mmh. C'est une façon à nous de pouvoir rendre le secteur de ramassage de déchets ou bien le secteur de déchets beaucoup plus intéressant qu'il l'est avant, et en même temps toucher une cible plus grande, en fait, parce que aujourd'hui il y a certaines zones où il n'y a pas ces acteurs là et voilà, je pense que Rob Assimé va répondre à beaucoup de problèmes, en fait.
Mais je me dis aussi que vous serez face à beaucoup de... Peut-être au début, parce qu'il y en a qui ne savent toujours pas utiliser les Android, les portables sophistiqués et tout. Il y aura un travail de sensibilisation à nouveau, en tout cas à fond du moins.
Oui, c'est vrai. En même temps, je remercie le ministère de l'économie numérique qui fait de gros efforts pour justement augmenter la couche en termes d'accessibilité à Internet. Mais ce sera une solution qui va fonctionner en online et en offline, en fait. Donc ça voudrait dire que vous ayez un téléphone, que vous ayez internet ou pas, vous pouvez toujours aller sur Rob Assimé. Donc nous sommes en train de penser à toutes ces personnes-là qui n'ont pas forcément internet à leur niveau ou qui ne peuvent pas télécharger une application, moderniser la solution pour quand même toucher le plus grand nombre de personnes.
Alors, comment voyez-vous Rob Alotto dans peut-être 10 ans, 5 ans, 10 ans ?
Dans 10 ans, je vois Rob Alotto, enfin, je vois des écoles où il n'y a plus de déchets. C'est déjà la vision. Je vois des écoles où il n'y a plus de déchets.
Oui.
Des écoles où on ne fait pas que créer des élèves qui en savent sur les mathématiques, les physiques, les sciences, mais également sur les comportements éco-citoyens. L'idée, c'est de pouvoir sortir, bien de pouvoir moderniser l'éducation, parce qu'aujourd'hui, peu importe le secteur que nous touchons, que ce soit je sais pas, l'économie, les finances, l'agriculture, je pense qu'il y a l'impact environnemental qu'on doit prendre en compte.
En
du
compte.
Coup, c'est important de pouvoir commencer par inculquer ça à nos élèves à la base, en fait. Donc voilà, donc je vois beaucoup plus des jeunes qui sont impactés par leurs études, parce que ça leur permet d'une part d'avoir des connaissances en ce que nous savons, mais d'autre part aussi d'en savoir davantage sur tout ce qui est engagement citoyen, tout ce qui est
climat,
tout ce qui est environnement. Voilà.
D'accord. Alors, Monsieur Ayman, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un ou ceux-là qui souhaiteraient bien initier un projet écologique comme le vôtre ? Compliqué la question ?
Non, pas compliqué. Mais je pense que ça dépend
de la motivation.
Voilà. Si je voudrais donner des conseils, c'est d'abord la patience.
D'accord.
La passion et la détermination. Voilà. Mm-hmm. La patience, parce que au début, nous, quand on a lancé Rob Alotto, c'était pas pour on ne cherchait même pas de l'argent, c'était pour justement on a constaté un problème, on voulait
le régler
en fait. Après, en fait, on a compris que il y a des modèles économiques qu'on peut développer. Il y a des... Après, l'argent, c'était quelque chose qui était beaucoup plus soft en fait, vous voyez. Donc, la patience, dans ce... la détermination, parce que comme j'ai dit, nous, on a pris 3 ans pour avoir juste les autorisations. L'agrément. Voilà, juste les autorisations, même pas le financement. Donc voilà, donc c'est un travail qui est sur la durée. Et voilà, maintenant quand vous êtes déterminé, je pense que ça permet de ne pas rester dans les bonnes grâces. Il faudrait, en fait, on est dans un monde en perpétuelle évolution et c'est important de s'adapter, de continuer par innover, d'apprendre de qu'est-ce qui est fait en Europe, qu'est-ce qui est fait en Afrique et de pouvoir justement avoir toutes ces connaissances-là pour calibrer notre solution que nous proposons ici chez nous.
D'accord, alors nous allons donc nous séparer de vous. On espère en tout cas vous recevoir à nouveau pour parler peut-être plus de robe à cimer, Inch'Allah. Donc, quel est votre mot de la fin?
Je vous remercie, vous. Merci, l'accueil était très chaleureux. Je n'ai pas eu l'impression que j'étais dans une radio. Et voilà, merci pour le travail. Je pense qu'on a besoin des acteurs comme vous pour justement mettre en lumière ce que nous faisons, parce que beaucoup de personnes ne connaissent toujours pas Robe à l'Auto, malgré le gros travail qui y a derrière. Et je vous en remercie. Merci également à toutes ces personnes-là, ces acteurs-là qui nous accompagnent, que ce soit juste avec les encouragements, les soutiens techniques. Merci au ministère de l'économie numérique, à l'agence Togo Digital, à la GIZ également, qui font de gros efforts pour justement permettre aux startups togolaises de pouvoir être à 100% en fait. Donc voilà, nous ne faisons même pas encore 5% de ce que nous pouvons faire. Donc voilà, donc merci à vous.
Merci à vous aussi d'avoir honoré de votre présence dans notre studio. Et on vous souhaite que le meilleur. Bien de courage à ces jeunes-là qui se sont vraiment intégrés à ce projet-là. Et merci bien sûr aux écoles qui font partie intégrante de ce projet. Alors, auditeurs, auditrices, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition de ce vendredi. Merci à vous aussi d'avoir prêté écoute à cette thématique qui est à la fois sociale et environnementale. Merci de nouveau à Monsieur Ayman Bouadamassi, qui est donc l'initiateur du projet Robe à l'Auto. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite de soirée. On se dit à la prochaine avec un nouveau thème.